Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, tous les jours de 15h à 16h. Alors aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter nos meilleurs moments, ceux que nous avons sélectionnés pour vous aider à prendre soin de votre santé et de celle de vos proches. Alors cet après-midi, surtout des conseils pour les jeunes. On vous propose notamment un entretien sur la charge mentale des enfants, cette pression du quotidien qui n'est donc pas subie que par les adultes. Mais avant ça, pour démarrer cette émission, place à un sujet qui est un problème dans de nombreuses familles, comment gérer les écrans à la maison. Intéressant en période de vacances en d'autant plus. Alors pour en parler, nous avions reçu le pédopsychiatre Louis Vera.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Docteur Louis Vera, bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, bonjour à tous.
Vous êtes pédopsychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et également l'auteur du livre « Tous précoces, tous hyperactifs, vraiment » aux éditions Larousse. Et aujourd'hui, avec vous, on va parler des écrans et des enfants. On sait d'abord combien de temps, en moyenne, nos enfants sont sur les écrans. Alors, on a des chiffres américains, ça tombe bien, hein, c'est l'actualité aujourd'hui de parler des États-Unis. Aux États-Unis, on parle de plus de 7 heures par jour pour les 8-18 ans. Est-ce qu'en France, j'imagine que c'est quand même peut-être pas autant, non ? Enfin, je sais pas.
Alors, je ne suis pas sûr que ces chiffres soient vraiment exacts. Ce que j'ai en tête, c'est pour les enfants, environ 2h, 2h30 d'écran par jour, ce qui paraît énorme.
Mais déjà...
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir d'un certain temps d'écran, les performances cognitives vont décroissantes. Donc, 7 heures par jour, il me semble que c'est plutôt la limite au-delà de laquelle on a une très grande décroissance des performances des enfants.
Mais du coup, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le cerveau d'un enfant qui est exposé massivement aux écrans? Ça peut perturber, vous avez dit, ses acquisitions, c'est ça?
Alors, en fait, l'enfant, avant 2 ans, a besoin de manipuler pour apprendre. Et... tous les parents qui vont les mettre devant les écrans de télévision pendant les repas ou pour être tranquille dans la poussette se leurrent parce que l'enfant va être finalement scotché devant l'écran, très attiré, hein, quel que soit notre âge, on est attiré par les écrans, mais n'apprend rien. Parce que pour l'enfant de moins de 2 ans, ce qui se passe dans l'écran ne signifie rien, n'est pas réel. Et donc, effectivement, les enfants de jeune âge qui sont massivement exposés aux écrans vont avoir des capacités cognitives inférieures aux autres, des capacités en termes de lecture inférieures et un vocabulaire moins développé.
Sur les adolescents, docteur Vera, particulièrement, je crois que ça agit, vous m'avez dit ça en préparant l'émission, sur le système de la récompense. C'est quoi ce système dans notre cerveau ?
Bien, c'est comme ça que les écrans vont nous happer, finalement. C'est parce que...
nous rendre accro.
On peut comparer les écrans, surtout les jeux vidéo, les réseaux sociaux, à le bandit manchot, le fameux dans les casinos. Et en fait, au casino, vous avez votre bandit manchot que vous allez actionner. Et puis là, il va y avoir de l'attente mêlée à de la frustration. On espère toujours gagner le jackpot. On est frustré.
On ne le gagne pas souvent.
Mais on y retourne quand même. Et les écrans ont exactement le même effet.
Est-ce que justement, il peut y avoir un impact, on a vu qu'il y avait un gros impact sur le cerveau, mais est-ce que du coup, il peut y avoir un impact psychologique et social aussi ?
Bien, le plus grand impact, c'est notamment chez les enfants, chez qui on ne va pas restreindre les écrans pendant les temps de repas et les temps d'échanges sociaux. Ces enfants-là n'apprennent pas tout ce qui est social skills, les habiletés sociales. Et les habiletés sociales, ça s'apprend en étant au contact de l'autre. Quand vous collez un enfant sur un écran pendant les temps de repas, il ne va pas apprendre à échanger avec l'autre et il ne va pas développer ses habiletés sociales. Donc c'est vraiment néfaste pour eux.
Et en plus de ça, est-ce que ça peut avoir un impact sur le sommeil des enfants, justement, ces écrans ?
Alors, ce qui a été montré, c'est que si on n'éteint pas les écrans, là je parle surtout smartphone, tablette, ordinateur, 1 heure avant le coucher, ça a un impact fort sur le sommeil. Même si votre enfant dit être en forme le lendemain et va se concentrer en mathématiques, il n'aura pour autant pas forcément bien enregistré le cours de mathématiques de la veille, parce que beaucoup de processus de mémorisation se font pendant la nuit, et ça sera au détriment de sa compréhension du futur cours de mathématiques.
Alors à présent, on va passer à la gestion au quotidien, docteur Vera, des écrans avec nos enfants. D'abord, vous l'avez un petit peu amorcé tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un âge avant lequel vraiment il ne faut pas d'écran.
Ce sur quoi s'accordent tous les spécialistes, c'est pas d'écran avant 18 à 24 mois. D'accord. Donc par sécurité, je dirais pas d'écran avant l'âge de 2 ans, avec une exception pendant le confinement et en dehors du confinement, c'est le FaceTime,
oui,
la communication
aller voir
avec
papi,
les
mamie,
autres, parce que là, l'enfant est en interaction avec quelqu'un et donc c'est moins nocif. Mmh.
Moi, je trouve que c'est très... Je ne vais pas dire que c'est laxiste, mais j'avais envie...
Je crois que les recommandations, c'est 3 ans officiel.
J'aurais même envie de pousser le curseur un peu plus loin, parce que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que le temps passe, on apprend de nouvelles choses et on se rend compte que si jamais on les expose, et je suppose qu'il y a une durée peut-être maximum d'exposition, je ne sais pas, 30 minutes par jour, une heure, comment on fixe
le curseur ? Je crois qu'il va dire encore moins que ça. À 3 ans, par exemple.
Je suis un peu sévère sur les écrans, il faut l'avouer. Entre 3 et 6 ans... on peut être un peu plus cool sur les écrans, mais il faut choisir le contenu. C'est ça le plus important. Et uniquement de l'éducatif. Et au mieux, on reste avec l'enfant exposé aux écrans. Et là, entre 3 et 6 ans, j'aurais tendance à dire pas plus de 30 minutes par jour.
Ah oui.
Sinon, ça se fait au détriment d'autres apprentissages et même de temps d'ennui. C'est bien les temps d'ennui. Ça permet de développer l'imagination et la créativité. Et c'est excellent pour les apprentissages plus tard et dans votre vie d'adulte épanoui.
Pour les adolescents, c'est peut-être un peu différent. À partir de quel âge un enfant peut avoir un téléphone et comment est-ce qu'on le choisit ?
Alors là, je distingue deux périodes.
Là, attention, c'est le tyran Vera qui va parler, je vous
préviens. Exactement. entre 11 et 15 ans, on va dire pour les collégiens, pas de smartphone. Attention, les smartphones, c'est
un piège. Il y a quelque chose d'autre qui existe, oui.
On prend la vieille brique, le Nokia 8310, qu'on a tous fait tomber 50 fois.
Le 3310, c'est le...
Et le 3310, c'est encore
celui
pire.
De notre époque.
Bon, une brique, peu importe de la marque, une brique.
Une brique. Okay. Qui a survécu à 156
jusqu'à
chocs.
Jusqu'à 16 ans, vous avez dit une brique ?
Jusqu'au collège, jusqu'au lycée.
À l'entrée lycée, ça va être chaud quand même.
Parce que
bon,
le problème, c'est que les gamins vont être happés par YouTube, par les jeux vidéo qu'on peut avoir sur ces téléphones-là. Et il y a un autre risque aussi, c'est la caméra. Malheureusement, beaucoup de collégiens, de collégiennes se font avoir, envoient des photos.
Des petits selfies, montre-moi ci,
et puis après,
ça
circule dans toute la classe. Donc en fait, le smartphone, il n'y a pas uniquement le pendant réseaux sociaux, YouTube, qui peut appeler et aller au détriment des devoirs. Il y a aussi une discussion qui doit s'engager avec l'enfant. Il doit être prêt à avoir un smartphone entre les mains.
Selon vous, ce n'est pas avant le lycée. Donc la brique jusqu'au lycée. Et au lycée, on peut investir dans un smartphone. Alors.
Exactement.
Mais comment est-ce qu'on fait ? Puisque moi, je suis d'accord avec vous. Et il faut écouter le docteur Vera. Il a
chez le docteur Mohamed, ils auront un téléphone à partir de 25 ans.
Oui, mais comment est-ce qu'on fait ? Aux 25 ans, s'ils sont sages.
Et qu'ils ont bien travaillé à l'école.
Mais comment est-ce qu'on fait si jamais notre enfant est le seul à être dans cette situation ? Du coup, tout le monde a des réseaux sociaux, des YouTube, des TikTok,
des
Facebook.
Mon fils au collège, tous ses amis sont sur TikTok déjà.
Et il va se sentir un peu exclu. Et comment expliquer les choses ? Que on est nous dans le vrai et puis les autres...
On peut, chez le collégien, laisser un petit temps de réseaux sociaux, un temps contrôlé en le faisant avec lui.
Alors, moi, j'ai installé TikTok sur mon téléphone et il n'y a accès que sur mon téléphone un petit peu en fin de journée pour voir ce que ses copains ont posté. Ça va, ça ?
Mais attention, TikTok, c'est comme YouTube. Ouais. Le problème, c'est qu'on va aller de vidéo en vidéo en vidéo en vidéo. Il y a zéro contenu éducatif sur TikTok.
Ouais.
Et le piège, c'est de se laisser aller à surfer comme sur Internet pendant un temps très long. C'est pour ça qu'il faut contrôler à ce moment-là. Et donc, je ne dis pas non aux réseaux sociaux pour les collégiens, mais il ne faut, faut pas trop libérer tout ça. Et il faut être derrière pour surveiller le temps.
Docteur Vera, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, docteur Louis Vera. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et que vous êtes également l'auteur du livre « Tous précoces, tous hyperactifs, vraiment » aux éditions Larousse. Alors, docteur Vera, on est confiné, enfin les week-ends en tout cas pour les enfants, on va en parler, mais le fait justement qu'ils continuent à aller à l'école, on va revenir sur les écrans juste après, est-ce que c'est une bonne chose d'ailleurs pour leur santé mentale et la nôtre aussi d'ailleurs, ça c'est sûr par contre. Enfin, j'ai même pas besoin que vous me répondiez, moi je le sais.
Alors, ce sera peut-être le prochain livre, « Tous coachés derrière les écrans, tous foutus. » Alors, c'est pas forcément mauvais d'être plus derrière les écrans pendant un temps de confinement parce qu'il faut l'avouer, il faut quand même s'occuper. Et c'est pas évident pour les enfants. Le dernier confinement était très dur pour eux.
C'est pour ça que vous disiez, l'école, cette fois-ci, c'est bien, c'est une bonne chose pour leur santé mentale.
Je trouve que c'est une bonne chose dans cette période de confinement de garder l'école ouverte. Et c'est le dernier lieu à fermer pendant le confinement et les prochains confinements, déconfinements qui s'annoncent.
Jimmy.
Et du coup, est-ce que vous craignez pendant cette deuxième vague, justement, un retentissement sur la santé mentale des enfants qui ont déjà pu être impactés lors de la première ?
Alors, cette fois-ci, ça va être moins dur parce que les enfants gardent le contact avec les camarades de classe. Le lien avec la maîtresse pour les petits, avec les enseignants pour les plus grands.
Il y a eu des dégâts la première fois, vous les avez constatés ?
Ça a été très difficile. Alors, les anxieux, au contraire de ce que beaucoup pensent, étaient super contents de rester à la maison. C'est des pantouflards, de toute façon, les anxieux. mais pour les autres, ça a été très dur de ne pas voir les copains et de perdre ce lien essentiel avec les habitudes, les routines. Et ça, ça manque beaucoup. Donc, effectivement, il ne faut pas développer des routines alternatives trop différentes pendant le confinement. Et là, on a une chance, c'est qu'ils continuent d'aller à l'école. Donc, j'aurais tendance à dire, le week-end, où ça va être un peu plus dur, pourquoi pas un peu plus d'écran, contrôler.
Oui, c'est ça, c'est que du coup, il faut négocier. Le week-end, on est un peu plus souple et on fait quoi ? On fait les activités peut-être avec eux, on ne les laisse pas seuls ?
Alors, si Mélanie m'appelait un tyran, c'est justement pour une raison, c'est qu'on négocie pas
avec
moi.
Non, je vous appelle le tyran et le roi du deal quand même, parce que si vous aimez bien négocier, je crois.
Effectivement, je pense que tout ça, ça doit se dealer, mais sans laisser de discussion en face.
Vous savez, c'est le deal fermé, quoi. J'ai décidé que c'est comme ça, t'es d'accord, bien sûr.
Mais parce qu'à partir du moment où vous laissez la porte ouverte aux négociations, qu'est-ce que vous allez entendre ?
Vous ressemblez un peu tous
encore
les deux,
encore un
fait.
Peu.
Je vous connais un peu mieux.
Si vous dites en face, ok, tu peux négocier, vous entendrez encore un peu régulièrement. Je pense que le meilleur deal, c'est dire, ok, il y aura un peu plus d'écran les week-ends pendant le confinement. Il n'y a pas de raison que ça change en semaine.
Il va pleuvoir, il va faire quand même bien plus mauvais qu'a priori au confinement premier.
Hein. Donc on a de toute façon plus tendance à rester à la maison. Pourquoi pas un peu plus d'écran, mais partager. Pourquoi les papas ne se mettraient pas à jouer à Mario Kart ? Moi, je joue à Mario Kart avec mon fils le week-end, on s'éclate. Et après, quand on dit on éteint, il n'y a aucun problème.
Vous avez peur de ça, Jimmy ? Vous n'osez pas vous commencer à vous mettre aux jeux vidéo avec votre
pendant
fils,
le confinement, si on accepte les jeux vidéo même à
c'est
deux,
des mauvaises habitudes,
le loup est dans la bergerie. Et donc, on se dit au moment du déconfinement, on finira tôt ou tard, je l'espère, par retrouver une vie normale. Ils vont nous réclamer ces jeux vidéo à juste titre.
Vous n'êtes pas d'accord, docteur Vera ? Je crois que vous dites si c'est le deal, il est fermé, il n'a pas le choix et puis c'est tout.
En fait, c'est vrai que si les enfants ne sont pas habitués aux écrans, qu'on les introduit pendant cette période spéciale, ça va être difficile après de leur dire il n'y a plus d'écran. C'est pour ça qu'il faut toujours que ce soit de manière contrôlée chez les plus jeunes. Chez les grands, par exemple, on va leur dire, par contre, ton écran à table, on n'en veut pas. Tant que tu n'as pas fait tes devoirs, on n'en veut pas. Chez le petit, ce n'est pas la même chose. Il faut partager le temps d'écran avec lui. Et quand on parlait de deal, justement, ce que j'avais proposé à mon fils pendant le confinement et j'ai reproposé là, c'est tu lis un livre par semaine, tu peux faire un petit peu plus d'écran le week-end.
C'est pas mal, ça, Jimmy, non ?
Et il le lit vraiment le livre ? Parce que moi je les vois bien filouter. Et
moi, il m'a dit
vitesse.
Ok, mais il prend une BD, quoi. C'est vite lu. Hein.
Ah, mais est-ce qu'une BD, c'est de la lecture ? Je pense que oui, on peut accepter. Enfin, y a pas
une
de,
BD,
y a pas
c'est
de
la lecture, mais ça ne sollicite pas autant.
Mais les quatre filles du docteur March.
Ça ne sollicite pas autant les capacités d'attention. En
ah
fait,
oui, c'est pas Les Misérables de Victor Hugo, mais bon, voilà, on peut.
Mais non, c'est en fonction de l'âge. Un livre par semaine pour faire un peu ou un peu plus d'écran le week-end.
Donc on négocie un peu quand même.
D'accord, on négocie. Mais alors, il y a aussi des bonnes choses, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure sur les écrans. Alors sur les écrans, mais des choses qu'on peut écouter. Nous, on adore ça, évidemment. On peut écouter la radio sur les écrans, mais on peut aussi écouter des podcasts. Et ça, c'est quelque chose que vous avez découvert justement, vous, avec votre fils, et que vous conseillez à vos patients depuis. C'est très intéressant, selon
Pendant le confinement, effectivement, je dis toujours, il ne faut pas diaboliser les écrans, parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses grâce aux écrans. Et une utilisation intelligente des écrans pendant la période de confinement, ça peut être d'écouter des podcasts. Il y a énormément de podcasts très intéressants.
On utilise l'écran comme un outil, mais finalement, on écoute après.
C'est
donc
ça.
C'est mieux.
On va télécharger les podcasts. Il y en a beaucoup qui sont très intéressants. On éteint l'écran. On n'est pas scotché derrière.
Alors, c'est quoi les podcasts pour les enfants que vous conseillez ?
Il y a par exemple les Odyssées qui sont très intéressantes avec notamment la légende du monstre du Loch Ness.
Les Tintins aussi,
grecque,
on avait parlé des Tintins.
Les histoires de Tintin. Et il y a beaucoup de podcasts finalement faits pour les enfants. Une autre application intéressante des écrans, c'est d'aller télécharger des images pixelisées. Donc sur Google, on tape pixel et les enfants vont les imprimer et ensuite les reproduire sur des feuilles à petits carreaux avec des crayons
c'est
de couleur.
C'est des petits carrés à colorier qui donnent des gros dessins à la fin. C'est un peu comme nous, on fait des mandalas pour se détendre ou des choses comme ça, les coloriages zen.
C'est un équivalent de mandala. Ouais. C'est vraiment un équivalent de mandala qui est déstresse et qui apprend à se concentrer.
Et vous dites aussi qu'on pourrait les apprendre à coder, que ça pourrait être intéressant pour les enfants, mais le codage, ça m'a l'air quelque chose
dans la famille des
technique.
Surdoués, peut-être.
Oui, c'est,
mais...
oui, c'est ça, oui, mais dans la famille des Gomez, à mon avis, c'est un peu plus difficile.
C'est pas gentil, ça.
Alors, on peut apprendre à coder à tout âge en utilisant les bons outils. C'est-à-dire que les élèves de primaire peuvent apprendre à coder en utilisant Scratch. Les élèves de collège et de lycée peuvent apprendre à coder avec des outils, des langages un peu plus développés. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que lorsque vous apprenez à coder à votre enfant sur Scratch, en fait, ce sont des blocs de logique à assembler, ce n'est pas un langage à apprendre, ça va développer sa logique. Et donc, ça va l'aider pour toutes les matières scientifiques.
Ah, en codant, il va être meilleur en maths, quoi.
Effectivement, ah, si on l'apprend.
Ça serait bon, ça, pour les enfants, Mohamed.
Oui, ce serait pas mal. Mais c'est encore mieux pour les vôtres. Ne commencez pas cette surenchère, Madame Gomez, vous allez vite le regretter.
De toute façon, c'est un bon conseil, ça. Ils finiront tous dans mon cabinet.
Donc, vous disiez, donc, jouer en famille aux jeux vidéo, ça peut être une solution. Mais du coup, il faudrait que toutes les familles s'y mettent. Il y a des jeux là où on fait même du sport en jeux vidéo. Ça, c'est pas mal parce que du coup, on bouge. Et on joue, et ensemble, c'est comme un jeu de société, finalement, sur un écran, quoi.
Oui, là, vous me faites penser, par exemple, pour ceux qui ont la Switch, à Ring Fit, où c'est vraiment un entraînement. Hein,
en plus, ils vont être fatigués,
sportif,
ça, c'est bien, moi, j'aime bien.
Ça les fatigue un petit peu, les parents sont contents, plutôt que de les scotcher comme des zombies derrière un dessin animé. Pour ceux qui ont des PlayStation et Xbox, on a aussi une caméra qui permet de faire différentes activités sportives. Donc, il n'y a pas que de mauvaises, entre guillemets, applications.
Et peut-être que pour finir, il faut que nous aussi, les adultes, on montre l'exemple et qu'on soit peut-être un peu moins scotché aux écrans, aux séries et même à notre téléphone portable pour que l'enfant se dise, bah oui, c'est ça le comportement.
Je crois
normal.
Que vous va dire qu'on s'en fout, nous, les adultes.
Ah non. D'accord. Mais ça me va très bien.
Eh bien non, parce que
moi, mon fils, il me dit souvent, ah, tu veux pas que j'ai mon téléphone, mais toi, tu l'as dans ta chambre, tu regardes des séries.
Alors, lorsque l'on fait des études, en fait, sur les enfants et qu'on les interroge par rapport à leur l'utilisation d'écran, ce qui revient le plus souvent, c'est, mais de toute façon, papa et maman, ils sont scotchés sur leurs écrans aussi. Ouais. Alors, il y a une différence quand même entre enfants et adultes, c'est que le cerveau de l'adulte est déjà très nettement développé, alors que le cerveau de l'enfant est en développement.
Et voilà, tu lui dis, moi, il est fini, mon cerveau.
Ah oui, il est fini, il est terminé. Je crois que là, on
s'en
était
rendu compte.
Oui, on ne peut plus rien pour moi, ni pour vous, Madame Gomez.
Très bien. Bon, merci beaucoup, Docteur Vera, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci pour vos conseils. Je ne suis pas sûre qu'on les appliquera tous, hein, mais c'est
parlez
toujours
utile. Parlez pour vous. Non, monsieur, c'est moi, je vais les appliquer. Après, il faut écouter le Docteur Vera.
Mais bon, on a des repères grâce à vous, en tout cas. Merci, Docteur.
Merci à vous.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, Aline Nativali-Damou. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Alors vous êtes psychologue clinicienne spécialisée dans le domaine de l'enfance, de l'adolescence et de la famille et surtout l'auteur du livre « La charge mentale des enfants quand nos exigences les épuisent » aux éditions Larousse. Alors disons ce qui est, la charge mentale des femmes, des mères, elle est souvent dénoncée. Depuis quelques années, on en parle beaucoup, mais elle leur est malheureusement pas réservée à ces femmes, à ces mères. Ça veut dire quoi chez les enfants? Est-ce que c'est exactement, je sais pas, la même définition, la charge mentale, c'est la même chose?
Alors, on retrouve effectivement les mêmes termes dans la définition de la charge mentale chez l'enfant. Ce qui va différer, c'est dans les domaines. C'est-à-dire que c'est plutôt sur les savoir-être et savoir-faire qu'on attend de l'enfant au niveau des exigences, du perfectionnisme et surtout aussi de la réussite. Donc en fait, il y a des domaines bien particuliers qui vont toucher la vie de l'enfant. C'est à la fois l'enfant idéalisé par ses adultes de référence, donc ce qu'on attend de lui en tant que parent, sa place dans la famille aussi, qu'est-ce qu'il représente dans cette famille pour toute la famille, les membres de la famille. L'autre point important, c'est son statut d'écolier qui va jouer énormément. Et la question aussi du genre, c'est-à-dire qu'il va y avoir certaines formes de pression. On va vouloir qu'il corresponde à certaines cases en fonction que tu es une petite fille ou un petit garçon.
Donc chez les enfants, les raisons de la charge mentale sont peut-être différentes, on vient de le comprendre, mais le constat final, en tout cas, il est le même, je crois, c'est de l'épuisement, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait, c'est un épuisement généralisé, donc c'est vraiment une fatigue chronique qui va s'installer sur tous les champs cognitifs, émotionnels, psychologiques et comportementaux de l'enfant. Donc ce sont des enfants qui arrivent extrêmement épuisés, mais qui le masquent, puisqu'ils mettent en place des stratégies comportementales, parce que leur objectif, c'est de faire plaisir aux adultes.
De montrer à quel point ils sont parfaits.
C'est ça, et autonomes aussi. Ça, c'est quelque chose de très important chez l'enfant, de montrer qu'il est grand.
Jimmy ?
C'est un phénomène qui est récent, ou finalement, ça a toujours existé, et on ne s'y intéresse que maintenant, puisque ce que vous dites, c'est que l'enfant, ce serait quasiment un métier.
Aujourd'hui, oui.
Oui, c'est ça. Moi, c'est un constat que je fais depuis 3-4 ans dans ma pratique en libéral, où c'est devenu un vrai métier de grand, avec une espèce de fiche de poste, avec des obligations, des objectifs à remplir, et surtout des évaluations. C'est-à-dire les enfants d'aujourd'hui ont l'impression d'être toujours évalués sur ce qu'ils sont capables de faire, de donner et de mettre en place dans leur vie d'enfant au quotidien. Oui. Donc ça ressort beaucoup dans la bouche des enfants, dans leur discours. Je pense que ça a toujours existé. Alors on n'a pas mis la notion de charge mentale dessus, on a beaucoup parlé du stress chez l'enfant. Il y a aussi le phénomène de parentification. C'est-à-dire que c'est un enfant parentifié qui va effectivement tout faire pour satisfaire les besoins des adultes.
Ah bon ?
Donc surtout ses figures d'attachement et de référence, en oubliant les siens. Parce que son objectif, c'est d'être aimé et aimable. Et c'est ça qui le rassure énormément.
Et cette charge mentale, elle concerne des enfants de quel âge ? Qu'est-ce que vous décrivez là, en fait, de ce dont on parle depuis le début de cette émission ? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge en particulier ? D'ailleurs, est-ce que c'est plus les petites filles, comme on parlait des mères et des femmes, ou est-ce que ça touche les deux sexes, pour le coup ?
Alors, au niveau de la tranche d'âge, je pense qu'il y a quelque chose qui se relève d'un peu plus fort, l'entrée à l'école, donc surtout à 6 ans, au CPE, parce qu'il y a effectivement cette envie de réussite.
C'est là qu'on devient un élève véritablement, peut-être, dans
voilà.
la tête de l'enfant aussi.
Le statut vraiment d'écolier qui fait qu'il va falloir apprendre, rester assis aussi, écouter l'enseignant, se faire des copains. Il n'y a pas les mêmes enjeux que la maternelle, quoique quand même dans la maternelle, il y a quand même beaucoup de parents qui ont de plus en plus de connaissances sur le stade de développement des enfants. Et qui peuvent aussi avoir une petite pression. Tiens, mon enfant à 18 mois, il ne fait pas ceci. Ça, c'est des choses que j'entends beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de parents qui sont dans une demande de coaching parental, de guidance parentale, et qui sont très au clair sur toutes les connaissances, la vulgarisation des connaissances, et qui veulent absolument que leur enfant rentre dans toutes les cases à 18 mois.
Il est très précis de ce qu'il doit devenir et ce qu'il doit être.
Ouais, Jimmy.
Quelle est la frontière entre l'éducation et finalement ce qui va conduire à la charge mentale des enfants ? Par exemple, si on leur demande systématiquement de débarrasser la table ou d'éteindre la lumière des toilettes.
Parce que c'est ce qu'il demande à ses fils tous les soirs.
Non, mais c'est vrai, ou même de se dire est-ce que tu as tiré la
chasse d'eau ? Parce que je leur ai mis la pression.
Ah oui, non, mais est-ce que tu as tiré la chasse d'eau ? Est-ce que tu as éteint la lumière ? Est-ce que tu t'es lavé les mains ? Est-ce que l'éducation.
Que ça, c'est normal quand même.
Ça reste normal. Ou est-ce que ça aussi, c'est leur mettre une pression de dire oh là là, t'as pas tiré la chasse d'eau ? Parce que moi, j'engueule mon fils s'il ne tire pas la chasse d'eau. Parce que, un, ça sent mauvais. Et deux, ça fait partie de l'éducation. On veut leur apprendre finalement à devenir des adultes.
En fait, il y a effectivement toutes les normes, enfin les apprentissages, les règles qui vont les aider dans la vie, dans la société, et puis surtout pour le bien-être de soi et des autres.
Ça, c'est les règles, c'est pas la charge, c'est les règles.
C'est
de
des
la
règles.
Vie.
Après, c'est plutôt le côté répétitif, c'est plutôt aussi les 12 violences éducatives, un petit peu où on va un petit peu s'acharner, ou surtout aussi sur ce qu'on projette sur notre enfant. C'est plutôt dans les savoir-être et savoir-faire, sur je veux que mon enfant sache faire telle ou telle chose, je veux absolument que. Bien sûr, ils ont besoin du côté éducatif, des règles, parce que ça va les aider, puis ça leur apprend des valeurs aussi.
Je veux que mon gosse sache jouer aux échecs, connaisse toutes les étapes de multiplication dès le CP.
C'est ça, c'est plutôt ça. C'est plutôt la charge mentale, elle va aussi arriver là par rapport à toutes les attentes qui ne correspondent pas forcément à leur âge de développement. Est-ce qu'ils sont aussi capables de mettre en place un instant T dans leur développement ?
Ou même, par exemple, leur imposer un sport, c'est le moment de la rentrée, on va décider des activités. Donc, si nous, on décide, tiens, cette année, tu vas faire du judo, et s'il ne l'a pas envie, ça fait partie de la charge mentale ?
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, l'enfant va, entre guillemets, essayer de vous faire plaisir, ou soit il va clairement vous signifier qu'il n'a pas envie, mais il va essayer parce qu'il sent que c'est important pour vous, et que vous voulez peut-être lui transmettre une passion que vous avez, ce qui arrive souvent, sauf que généralement, au bout de 2 ou 3 mois, l'enfant va mettre en place des stratégies pour éviter le
j'ai
judo.
J'ai mal au ventre aujourd'hui,
voilà.
Je ne vais pas y aller. Oui,
il va psychosomatiser, ça c'est quelque chose qui fonctionne bien, où il ne va pas se sentir entendu par son parent. Donc ça peut générer aussi beaucoup de tristesse et de colère. Je dis toujours en parents, c'est bien d'encourager, mais il y a la fameuse limite d'imposer quelque chose.
Alors, pour déculpabiliser quand même tout de suite, peut-être les parents qui nous écoutent, voire même les grands-parents, si on pense avoir un enfant qui souffre peut-être d'une charge mentale importante, c'est pas forcément parce qu'on est un mauvais parent, un parent maltraitant, d'accord ? Vous allez me dire si j'ai raison. Hein.
Oui.
D'ailleurs, vous dites, je crois, dans votre livre, il n'y a pas de parent ni d'enfant parfait.
C'est ça, parce que moi, je rencontre beaucoup de parents qui ne savent même plus, qui souvent se posent la question, c'est quoi être un bon parent aujourd'hui ? Avec les nouvelles vagues de parentalité, ils entendent beaucoup de choses, ils lisent plein de choses, ils participent à des conférences, des ateliers. Ils ont envie de bien faire. Et quelquefois, l'envie de bien faire amène aussi beaucoup de charges mentales dans leur parentalité à eux.
Oui, on se met une pression folle pour faire tout bien, hein, c'est ça.
Et ce qui fait que ça rebondit sur l'enfant parce que lui, il sent bien que c'est important pour papa, maman, mamie ou même pour mon enseignant que je réussisse bien telle ou telle chose. Mais il y a aussi cette notion de performance qui n'était peut-être pas autant présente avant avec effectivement les angoisses des parents sur la projection face à l'avenir. Les crises sanitaires, les crises économiques, écologiques, où ça amène beaucoup de parents qui sont en stress.
Dans l'actualité, il y a des choses très anxiogènes en plus,
voilà.
Donc tout ça n'aide
tout
pas pour ces petits bouts. Jimmy ?
Du coup, pour commencer à gérer le stress des parents, mais aussi du coup celui des enfants, ça commence par quoi ? Lâcher prise, être un peu plus dans la bienveillance, une forme de respect mutuel tous ensemble ?
Tout à fait, c'est vraiment à lâcher prise, prendre du recul sur sa parentalité, sur l'enfant qu'on a en face de soi. Et pas celui qu'on idéalise, qu'on fantasme, qu'on aimerait avoir. Je dis toujours aux parents, c'est qu'un tout petit bout de vous, il a déjà son tempérament, il va développer sa personnalité. Encouragez-le, accompagnez-le. Bien sûr, vous avez envie de lui transmettre certaines choses, mais essayez d'adapter toujours les en fonction de ce que votre enfant désire, aime et a besoin.
Est-ce qu'il est lui-même aussi
tout à fait.
Une vraie personnalité en devenir.
Tout
il faut
à
laisser
fait.
S'épanouir.
C'est super important. Oui. Et ça, il y a beaucoup d'enfants justement qui le pointent, hein, qu'on ne les laisse pas lire ce qu'ils ont envie de lire, regarder ce qu'ils ont envie de faire, enfin, même les activités, qu'on leur impose beaucoup de choses. Mais comme ce sont que des enfants, ils n'ont pas leur mot à dire.
Aline, quand vous voyez des familles qui viennent dans votre cabinet, alors j'imagine que les parents ne viennent pas d'eux-mêmes parce qu'ils se disent « Tiens, mon enfant souffre de charge mentale. » Ils arrivent avec un enfant, je ne sais pas, anxieux, qui pleure, qui est hyperactif. Oui. Vous mettez le nez assez vite dessus sur cette pression que les enfants peuvent subir. Et comment vous expliquez aux parents vous lui faites subir une charge mentale trop importante. Ce n'est pas facile, ça.
En fait, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est la loyauté envers la famille, les parents. Donc, il faut amener l'enfant à pouvoir dire des choses sur ce qu'il vit dans son quotidien. Beaucoup d'enfants sont assez réfractaires de dire « Ah, c'est la faute de papa, c'est la faute de maman ». Après, tout dépend de l'âge aussi, ça c'est important. Les plus jeunes ont un peu plus de mal. Donc là, il faut passer par le dessin, il faut passer par du jeu, où là, effectivement, ils vont projeter leur vécu. Et puis, moi, j'utilise Léon le Lémurien, qui effectivement, lui, me permet... Les enfants aiment bien projeter sur les animaux.
C'est un petit personnage, toute la famille de Lémurien. C'est vous dites Léon, il s'identifie à Léon qui est le petit enfant dans la famille, et le papa, la maman. Et ça permet de via Léon, de savoir ce que ressent l'enfant.
Les liens, etc.
Mm-hmm. Alors, pour nous aider à comprendre précisément ce que ça veut dire, cette charge mentale d'un enfant, on a un petit peu expliqué le concept tout à l'heure, mais je vous propose quand même de nous raconter peut-être l'histoire du petit Jules. Le petit Jules, il avait 6 ans, enfin il a 6 ans dans votre livre. Vous racontez cet exemple typique au tout début du bouquin. Racontez-nous l'histoire de Jules pour bien comprendre. Ce que c'est.
Jules, effectivement, c'est un enfant qui est surstimulé au niveau cognitif par rapport aux exigences de ses parents sur une projection en lien avec une future profession. Il a 6 ans, il multiplie les cours de langue, les cours de musique.
Alors là, la langue, pour bien comprendre, il fait du japonais, il fait de l'anglais, il fait, quand il vient en consultation, de l'arabe. Ça fait quand même déjà 3 langues plus le français, hein, puisqu'il a 6 ans, donc il rentre au CP.
C'est 3 de plus que nous, hein, déjà.
Voilà, c'est ça.
Et c'est pas tout. Il fait des musiciens, je crois,
oui,
aussi.
Oui, tout à fait. Et ça s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il est toujours occupé du lundi au dimanche. C'est un enfant qui arrive en consultation, moi je l'autorise à dormir, par exemple.
Dans votre cabinet,
il s'allonge pendant 20 minutes. On a fait un petit compromis quand même, parce qu'il faut qu'on arrive à travailler aussi un petit peu ce qu'il vit. Mais effectivement, et c'est quelque chose qu'il m'a dit, ne dis pas à mes parents que j'ai besoin de dormir.
Oh là là.
Donc ça, c'est quelque chose de très important. La chose importante dans l'épuisement, parce qu'on parle d'épuisement, ce sont vraiment des enfants qui vont aussi se cacher pour dormir et qui vont masquer à leurs adultes justement cet épuisement-là, parce qu'ils n'ont pas le droit. Ils ont l'impression de ne pas avoir le droit de s'ennuyer. De se reposer, parce qu'il faut toujours être dans l'agir, dans l'actif.
Alors Jules, c'est peut-être un exemple quand même vraiment extrême, mais j'imagine qu'on peut arriver à de la charge mentale, avec même peut-être des fois moins d'activité que ça. Je ne sais pas, Jimmy, combien ils font de sport et compagnie, vos enfants ?
Ils en font un ou deux, mais c'est du plaisir vraiment. Mais d'ailleurs, s'ils sont mauvais, par exemple, dans un sport, mais qu'ils veulent en faire, c'est une vraie question, est-ce qu'on leur dit ou on leur dit non ? Alors, c'est cruel de dire ça, mais parfois, parents, effectivement, on projette. Et on dit, non, tu ne vas pas faire ce soir ce que tu es mauvais. Est-ce que c'est une mauvaise chose, je suppose ?
Je pense que oui. Là. Moi, je suis presque
mauvais, ce ne sera peut-être pas le terme, mais en tout cas, lui dire, en tout cas, essayer de l'encourager. Alors après, je ne sais pas ce que ça veut dire mauvais. On peut toujours plus ou moins s'améliorer, mais.
On fait ça pour s'amuser, non ?
On le laisse faire ou...
Je pense qu'il faut le laisser faire pour qu'il se rende compte par lui-même.
Que ce n'est pas pour
lui. Là, ça serait un peu moins, en tout cas, plus facile à gérer pour lui.
Mais du coup, quand vous parlez d'épuisement, parce qu'on a du mal à comprendre chez un enfant, comment est-ce qu'on voit qu'un enfant est épuisé ? Est-ce que là, vous dites qu'il se cache pour dormir ?
Pour dormir,
mais
oui.
Mais nous, est-ce qu'il y a des symptômes, enfin en tout cas des signes qui peuvent alarmer les parents ?
Oui, alors moi je dis toujours, ce sont des enfants par exemple qui ne jouent plus, qui sont toujours dans une recherche active cognitive, c'est-à-dire qu'ils vont multiplier les lectures, demander des devoirs supplémentaires, qui vont être en recherche d'activité.
Les enfants sont tranquilles, du coup, ça va aller.
Qui vont vraiment, ça va être des mini-adultes, en fait. Ils vont avoir du mal à jouer avec les autres enfants parce qu'ils n'ont plus cette légèreté, cette insouciance. Et ils vont avoir malheureusement tendance à s'épuiser puisqu'ils mettent en place des stratégies pour ne pas montrer qu'ils sont fatigués.
C'est quoi ces stratégies ? Alors comment un enfant, il met ses stratégies ? J'ai l'impression que je verrais si mon enfant était fatigué, mais c'est quoi les stratégies ?
Alors ça, c'est les confidences des enfants que je reçois à mon cabinet. Il y en a qui boivent des boissons énergisantes, bien sûr. Il y en a qui se mettent quelquefois aussi à fumer en cachette, qui vont regarder sur Internet comment on fait pour tenir.
Si petit déjà vers 10 ans, 11 ans
9-10 ans, ça commence déjà quand même. Qui vont essayer de trouver des moments où les parents sont occupés, où les adultes de référence sont occupés pour aller s'assoupir aux toilettes, par exemple, pendant l'école.
Ça, vous avez des patients comme ça qui vous ont raconté ça dans votre cabinet ?
Oui.
Ah ouais, c'est de la folie, ça vous étonne, hein, Jimmy ?
Je suis coaché, honnêtement. Ouais. C'est vrai que c'est l'envers du décor, en fait. Hein, les enfants... Ils sont très résistants, mais est-ce que, du coup, avec ce que vous décrivez, ça peut avoir un retentissement sur leur santé physique au-delà de la santé mentale, puisque du coup, je suppose qu'ils mangent peut-être un peu moins, ils sont peut-être moins en forme ?
Tout à fait. Alors moi, je suis toujours en lien parce que je préconise toujours un bilan de santé pour l'enfant, donc le pédiatre ou le médecin de famille, pour qu'il puisse y avoir effectivement cette expertise médicale. Souvent, on repère les troubles d'alimentation. Ce sont plutôt des enfants qui ont tendance à moins manger parce qu'il y a plus plaisir aussi à manger. Mmh. Et puis que forcément, manger, ça prend du temps. En fait, ils ont une gestion du temps. Il faut que ça soit quelque chose de rentable, petit peu dans leur tête.
C'est des petits adultes, en fait. Hein,
c'est ça, tout à fait. C'est pour ça qu'on parle, je parle souvent d'un vrai métier de grand. Après, vous avez quelques médecins qui ont signifié des troubles de la croissance.
Qui va se stopper, par exemple.
Qui va être ralenti parce qu'il va y avoir forcément le cortisol, l'hormone du stress qui va plus ou moins inonder le corps et qui va dérégler l'homéostasie globale chez l'enfant. Les troubles du sommeil. Ça, c'est 99%, ils ont quasi tous des troubles du sommeil.
Et puis des choses qui vont peut-être somatiser, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, ça c'est important, je crois que ça revient souvent. Hein.
Ça revient très souvent, la tête, le ventre.
Les enfants qui se plaignent tout le temps comme ça, c'est souvent
Ils ne se plaignent pas en fait, ils ont un degré de résistance, c'est-à-dire que, parce qu'ils ont compris, pour certains, ils ont l'impression qu'il faut être un vrai petit soldat. C'est pour ça que je parle du syndrome d'ourson d'eau, où effectivement ils ont l'impression qu'ils aient une carapace et qu'ils attendent vraiment un seuil vraiment important de douleur pour réagir.
Jimmy ?
Ce que vous dites, on a l'impression que ça peut les conduire à la dépression. Oui. Est-ce que vous avez du coup des enfants qui sont déprimés ou même pire, peut-être qui font des tentatives de suicide en fait chez les enfants ?
Tout à fait. Ça, c'est un sujet extrêmement tabou, le trouble dépressif et les idées suicidaires chez les enfants et les préados. Parce que souvent, on associe ça à l'adolescence. Mais moi, j'ai quand même, maintenant même en cabinet, des parents qui arrivent avec le motif « mon enfant a des idées suicidaires ». Il y a effectivement ce syndrome de réussite par procuration du papa ou de la maman qui arrive souvent. Une pression aussi au niveau de la place dans la fratrie. L'aîné, c'est ce profil-là, qui on va lui donner beaucoup de missions. Après, tout dépend de la dynamique familiale, la dynamique environnementale, mais il n'y a pas de profil type garçon ou fille pour la charge mentale. C'est plutôt les répercussions de l'environnement global, l'accompagnant qu'on peut avoir au niveau de l'enfance, de son propre enfant. Même tous les adultes aussi qui l'accompagnent, qui peuvent avoir un impact.
Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Un enfant qui souffre, qui subit une charge mentale importante, on va essayer bien sûr de culpabiliser personne, mais c'est toujours la faute des parents ou il y a d'autres adultes référents qui peuvent être responsables de cette charge ?
C'est pas que les parents. Moi, je parle souvent de famille élargie, même, de, comme vous l'avez dit, de figure de référence. Ça va plutôt être la multiplicité, en fait. Ça va dire le coach sportif qui en demande un petit peu trop, papa aussi qui en demande un petit peu trop, l'enseignant qui peut aussi à un moment donné. En fait, c'est vraiment différents adultes qui vont mettre une pression plus ou moins indirecte ou inconsciente sur l'enfant.
Bon, c'est pas la faute que des parents, heureusement. Jimmy.
Du coup, on comprend que c'est compliqué, mais du coup, est-ce que ça peut se régler tout seul ou est-ce qu'on est obligé de passer par une consultation? Et d'ailleurs, qui est-ce qu'on va voir dans ces cas-là?
Alors, le conseil, c'est d'aller voir un pédopsychiatre ou un psychologue ou un thérapeute familial, parce que là, il faut vraiment axer sur l'ensemble de la famille.
Il faut mettre tout à plat pour tout le monde. Hein,
c'est ça. Ça peut prendre du temps et surtout, c'est plutôt le travail avec les adultes de référence qui prend du temps parce que l'enfant, lui, bouge assez rapidement. Et c'est plutôt les adultes qui ont du mal à prendre conscience ou prendre du recul parce qu'ils sont quand même dans une forme de bienveillance. Je fais tout ça pour lui. Je n'ai pas eu forcément conscience que je lui ai fait du mal. Donc c'est plutôt souvent les adultes qui claquent la porte.
Quand on les met en faute, entre guillemets, sur leur capacité parentale.
C'est pour ça que moi je leur dis toujours, on est une équipe. Moi je ne suis pas un juge, je suis une espèce de luciole bienveillante qui va essayer de vous éclaircir.
Aussi je suis une maman et je ne suis pas parfaite.
J'utilise quelquefois ma propre vie de maman sur des petits exemples un peu basiques. Moi par exemple, je rêverais que ma fille n'aime pas les princesses et elle adore les princesses. Je lui ai acheté un costume de ninja, elle ne veut absolument pas le mettre. Je leur dis, vous serez toujours forcément déçus par votre enfant. Maintenant c'est à vous de gérer cette petite frustration. Parce qu'il n'est pas là pour uniquement vous faire plaisir, ce n'est pas un fétiche.
Aline Nativel, on va faire une courte pause et on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, Aline Nativel Idamou. Vous êtes psychologue, clinicienne et l'auteur du livre « La charge mentale des enfants, quand nos exigences les épuisent » aux éditions Larousse. Alors Aline, à présent, on va tenter de donner, évidemment, maintenant qu'on a bien expliqué les choses, on va essayer de donner quelques conseils quand même aux adultes qui nous écoutent pour éviter d'en faire peser trop lourd sur les épaules des plus jeunes. D'abord, ce qu'il faut savoir, vous l'écrivez dans votre bouquin, c'est que des parents anxieux, ça fait généralement des enfants anxieux. Donc peut-être, parents, détendez-vous déjà.
Détendez-vous, vivez votre parentalité avec plus de recul. Arrêtez un petit peu d'être dans un désir de perfection. Vous aussi, vous idéalisez un petit peu le parent que vous voudriez être. Et vous mettez souvent une pression et puis ça rejaillit sur votre enfant. Il faut relativiser au maximum. Et puis surtout, il y a le couple parental. Parce qu'on parle souvent de la charge mentale des mamans. Il y a quand même certains papas maintenant avec qu'est-ce que c'est être un bon père aujourd'hui qui peuvent ressentir une espèce de pression aussi là-dessus. Donc on parle de coparentalité. Donc il faut pas. Et puis il y a pas que les parents. Il y a aussi la famille, les autres membres de la famille. Il y a aussi le coach. Il peut y avoir aussi les enseignants. Enfin, je veux dire, un enfant vit aussi en dehors de ses parents.
Vous avez raison, des bons pères et des pères très soucieux, il y en a beaucoup aujourd'hui. C'en est un, justement, Jimmy, allez-y.
Oui, et parfois on a des soucis, nous-mêmes, parents, et il faudrait peut-être aussi faire attention que ça ne déborde pas sur les enfants, d'éviter de projeter nos craintes et que les enfants n'apprennent pas des problèmes peut-être que nous, on a entre grands et que les enfants restent loin de tout ça, parce qu'ils ont toujours une oreille qui traîne et qui écoute ce qui se passe.
Alors, c'est même plus que l'oreille, ils sont très réceptifs aux ambiances.
C'est-à-dire que j'en dis souvent.
C'est ça.
Hein, ouais.
Ils sont très réceptifs aux ambiances, aux non-dits, aux secrets. Donc, effectivement, il ne faut pas projeter ses propres problématiques d'adulte. C'est souvent compliqué parce qu'on vit ensemble. Et puis, ils perçoivent, les enfants, beaucoup de choses. Hein.
Les enfants, ils ne sont jamais aussi attentifs que quand on se met à chuchoter entre adultes. Là, ils écoutent autant ce qu'on raconte.
Il y a un truc intéressant qui se passe, c'est surtout qu'on veut leur cacher. Donc, c'est encore plus intéressant, c'est surtout ça. Donc, en fait, je pense qu'il faut aussi sentir libre aussi de parler de sa propre histoire à son enfant. Ça peut permettre aussi que l'enfant comprenne pourquoi le foot, c'est si important pour papa, parce que lui, il a failli faire une carrière. Enfin, il y a des petites choses comme ça qui permettent aussi, après même à l'adulte, de prendre du recul. Mmh.
Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut arrêter de leur mettre la pression sur l'école, sur la scolarité ? Parce qu'on est d'accord, c'est quand même sain de vouloir que son enfant réussisse à l'école et des bonnes notes, plutôt que, je sais pas, il foute rien et que les résultats soient très mauvais. Donc, elle est où la limite là entre je te mets la pression, trop de pression, mais je veux être aussi un parent qui te guide et t'amène vers une bonne scolarité ?
C'est une question de cadre bienveillant, c'est-à-dire que oui, il y a des règles, oui, il y a certaines choses que j'aimerais que tu puisses faire. Après, si tu as des difficultés, il faut que tu oses me l'exprimer. Et souvent, c'est plutôt ça que les enfants ont du mal à faire. Dire « j'ai une difficulté » au lieu d'attendre le fameux bulletin qui arrive et là, les parents s'aperçoivent que là, il y a une grosse difficulté. Donc en fait, il faut essayer d'amener l'enfant à ce qu'il puisse vous verbaliser « j'ai tel ou tel problème, quelle solution on peut avoir ?» Après, les parents, il faut aussi lâcher un peu la pression. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne voient leur enfant que comme un élève. Donc il y a beaucoup de pression qui s'intéresse qu'à l'école, mais qu'aux notes à l'école.
Pas c'est quoi d'autre à part un élève à 8 ans ?
C'est un super bon camarade, parce que à cet âge-là, en plus, eux, ce qui est le plus important, c'est pas forcément les profs, les cours, c'est l'école, les copains, la récré, les liens sociaux. Souvent, un enfant, quand il a du mal à suivre, il y a souvent un problème relationnel avec les autres enfants. Et le conseil aussi aux adultes, c'est intéressez-vous à ce qui se passe aussi à l'école, pas forcément que sur le carnet de notes.
Ouais.
C'est important aussi. Jimmy ?
D'une façon plus générale, on parle beaucoup d'éducation positive, d'éducation bienveillante. L'enfant est au cœur de l'éducation, mais au bout d'un moment, ça a peut-être ses limites. Parfois, on a envie de les punir. Alors, où on place le juste milieu ? Est-ce que la punition, c'est une mauvaise chose ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Ou est-ce que vraiment, on peut être bienveillant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ?
Moi, je ne crois pas du tout.
Lorsqu'on a même parfois plusieurs enfants.
Non, c'est impossible. Alors, effectivement, la théorie de l'éducation positive, bienveillante, elle est super.
Tendre vers ça, c'est bien.
Oui, ouais. C'est un idéal à atteindre. Mais effectivement, et moi je reçois beaucoup de parents qui lisent plein d'ouvrages, qui regardent plein de vidéos, et qui se disent mais comment ils font 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour pas hausser la voix,
jamais punir, écoutez, tu es en souffrance là, tu fais pas
voilà.
Ça, c'est difficile hein, quand
c'est
même.
Très difficile,
ouais.
Alors,
on est
même après,
fatigué parfois
la nouvelle vague c'est de plus parler de punition mais de conséquences donc ça a un côté un peu moins.
Vous faites quoi chez vous, c'est conséquences ou punition?
Ça dépend de l'humeur aussi. Il faut être honnête, parfois on est fatigué,
oui, bien sûr.
Parfois on va leur essayer en tout cas de les punir en fonction de la bêtise qu'ils ont faite. Par exemple, à table, ils font n'importe quoi. Je leur dis, la prochaine fois, tu mangeras à table à côté. Et éviter de leur dire, je vais prendre tes cartes Pokémon. Essayer d'être un peu juste dans la punition,
oui,
en fait.
Voilà, mais on parle de la conséquence, justement, juste par rapport à ce que la bêtise qui est faite ou qui est perçue par l'adulte. Parce que c'est ce que je dis, un enfant qui ne fait pas de bêtises, c'est impossible, ça n'existe pas. Il faut juste relativiser sur la bêtise, quoi.
Vous dites, vous l'avez déjà un petit peu amorcé tout à l'heure, mais qu'il faut arrêter de penser que nos enfants donc, sont des adultes en miniature. Eux, ils ont le droit d'aller moins vite. C'est vrai qu'on les presse beaucoup, les enfants, le matin. C'est « allez, vite, vite, je dois aller moi travailler, l'école ». Alors, je ne dis pas qu'il faut être en retard à l'école, mais un enfant, ça ne va vraiment pas au même rythme qu'un adulte. Enfin, il y en a peut-être, mais en tout cas, laissons-les être des enfants et aller au rythme qui leur convient, c'est ça ?
Oui, alors
ça
effectivement,
veut dire quoi dans la vraie vie, ça ?
Ils ont une temporalité qui est très différente de nous, donc forcément, c'est à nous, adultes, de nous organiser différemment. Si on sait qu'on a un enfant qui a du mal à se réveiller, C'est à nous d'optimiser le temps, par exemple.
On va lever peut-être un peu plus tôt et ça lui laisse le temps d'émerger.
On va se lever un peu plus tôt en tant qu'adulte et puis on va préparer les choses.
Alors, effectivement, ça, quand il se lève, il n'y a plus qu'à faire quelques petits trucs et pas.
C'est aux adultes de s'adapter et pas le contraire. Et malheureusement, ce qui se passe plutôt dans la vie ordinaire, c'est plutôt les enfants qui s'adaptent aux adultes. Après, j'accable aucun parent. On peut avoir des moments où on est fatigué, où on a mal dormi, ou bah oui, effectivement, on est en retard. Mais c'est aussi un apprentissage de la vie d'être en retard.
Si tous les jours, il faut se poser des questions, effectivement.
Jimmy, une dernière question.
Donc, du coup, le maître mot, c'est encourager les enfants, les féliciter. Comment est-ce qu'on fait ? Parce que parfois, peut-être qu'on n'est pas adapté, nous, parents, quand on dit bravo, t'as bien dessiné. On est peut-être
Parlais de mes enfants un petit peu en préparant cette émission. Ils m'avaient dit, mais il faut en faire des caisses. Ça veut dire quoi ?
Je pense qu'il faut vraiment en faire des caisses sur les félicitations si c'est très important pour l'enfant. C'est-à-dire que c'est une notion de réussite, ça va l'encourager à continuer. Il va être fier de lui. Donc là, il va se dire, tiens, aussi mes parents sont fiers, ou l'adulte est fier. Donc ça me donne envie de continuer, ça me motive à. Et je vaux quelque chose.
Merci beaucoup Aline Nativelle d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir bien sûr éclairé sur cette notion mal connue de charge mentale des enfants, ce qui est d'ailleurs le titre de votre livre aux éditions Larousse. Merci encore.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h pour cette dernière séquence de l'émission. Comme tous les jours, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint. Catherine Blanc, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on va répondre à cette question de Claude. Alors Jimmy rigole déjà, je ne sais pas, je pense que...
Ah, Jimmy, il est sur son portable.
Vous avez fait une petite blague que je n'ai pas entendue peut-être ?
Absolument pas, non, je suis de bonne humeur, ça vous échappe. Mais...
Ah, mais c'est tellement étrange, c'est ça ?
C'est tellement rare
voilà,
que...
Voilà, c'est ça, je suis surprise alors. Je vais vous lire la question aujourd'hui de Claude. Alors la question suivante. Ma femme a eu un cancer, donc Claude est un homme. Ma femme a eu un cancer il y a 2 ans. Depuis, je n'arrive plus à ressentir de désir sexuel. Je la sens fragile et de son côté, elle n'a pas l'air demandeuse. Comment l'expliquer ? À quel moment pensez-vous que notre libido reviendra à la normale ? Alors Catherine, c'est une très bonne question. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup... On parle rarement de sujets de cancer et de sexualité liés, mais il y a pas mal de problématiques, même une fois qu'on a guéri d'un cancer. C'est normal, justement, après une telle maladie, qu'il y ait des problèmes de libido. C'est pas automatique, mais ça arrive souvent.
Alors oui, alors d'abord, il y a plusieurs questions dans la question. Il y a d'abord la question de deux personnes qui ont un problème de libido. La personne qui a eu un cancer, donc cette femme, ce qu'on peut tout à fait comprendre dès lors qu'on a flirté avec la mort, qu'on est peut-être avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc évidemment que ça peut relancer un désir pour affirmer la vie, mais on est plutôt dans un soin de soi, dans une idée aussi de dévastation ou de corps abîmé ou de corps,
elle a peut-être été opérée,
de corps amputé d'une partie de son corps éventuellement.
C'est pas précisé quel cancer, mais
voilà. Donc évidemment qu'on peut bien comprendre que quand on est en train de se réparer, toute l'énergie est psychique et physique,
c'est bien normal,
va dans cette direction. Pour ce qui est de son partenaire, de son mari, désirer quelqu'un, c'est désirer pour soi, bien sûr, mais c'est aussi désirer construire avec l'autre, faire des choses avec l'autre. Et puis, il faut sentir l'autre, évidemment, solide et partant pour l'aventure. Dès lors qu'elle est à la tristesse ou à la sécurité de son corps, évidemment qu'à ce moment-là, pénétrer une femme peut être perçue comme étant une agression qu'on lui fait subir. Et donc, évidemment, qu'on ne peut pas facilement avoir envie de la pénétrer, parce que pour pénétrer le corps de l'autre, il faut être en tranquillité pour soi, mais en tranquillité qu'on ne va pas faire de mal à l'autre. Or, si l'autre est fragilisé, on est plutôt dans un soin maternant, donc extérieur, englobant l'autre, plutôt que dans un soin de conquête et de pénétration, inévitablement.
Jimmy ?
Il y a deux aspects un peu déroutants, c'est qu'il dit « elle n'a pas l'air demandeuse », mais on a l'impression qu'il ne lui a pas posé la question, il ne lui a pas demandé, au fait, qu'en est-il de ta libido ? Peut-être qu'elle pourra lui dire « non, écoute-moi, ça va, mais c'est vrai que ça a été difficile ». Et puis peut-être qu'on peut recréer les circonstances favorables pour recréer de la libido. C'est vrai qu'on résume l'acte sexuel au fait d'être dans un lit et d'avoir un rapport sexuel, alors que finalement, ça commence peut-être par le restaurant, une main sur l'épaule, une caresse, pour donner ensuite envie de recréer cette magie. Peut-être que finalement le problème est peut-être beaucoup plus simple que ce qu'on pense.
Oui, et comme vous le dites très justement, Jimmy, elle n'a pas l'air. C'est-à-dire que finalement, il y a un silence qui s'est fait dans ce couple. Parce qu'il y a la maladie qui s'est instaurée là, qu'elle a monopolisé toutes les attentions.
Ça n'a pas été le sujet, la sexualité, c'est ça, pendant quelques temps, j'ai l'impression.
Et du coup, elle n'en a pas l'air. Elle ne se met pas, faudrait-il qu'elle en ait l'air. C'est-à-dire qu'il faudrait-il qu'elle se mette en scène, faudrait-il qu'elle dise « youhou ! J'ai envie de faire l'amour », les choses sont un peu plus compliquées que ça, pour elle certainement, mais en tout cas, peut-être qu'avant, elle n'était pas déjà comme ça, elle n'était déjà pas en train de mettre tout en scène pour montrer son désir. Mais lui est peut-être en difficulté. Et c'est parce qu'il est en difficulté.
Oui, c'est ça, parce qu'il a peut-être peur, il la sent fragile aussi, il n'a pas envie de lui faire mal.
Parce qu'il a peur de lui dire peut-être « j'aurais envie de toi » et qu'elle ne soit pas capable, et que du coup, ça la mette en échec un nouvel échec ou qu'il se sente rejeté. Donc du coup, lui-même évite le sujet parce qu'il n'est pas très à l'aise avec ce corps abîmé, selon aussi où il a été abîmé. C'est évidemment qu'il y a cancer et cancer. Tout, c'est toujours une idée de peur de la maladie, de la mort, etc. Maintenant, il y a des cancers qui sont plus féminins. S'il s'agit de seins, s'il s'agit d'ovaires, s'il s'agit d'utérus, vous pensez bien que ce n'est pas la même chose d'envisager d'aller toucher le corps sexué sur des zones sexuées si elles ont été elles-mêmes touchées par la maladie.
Le cancer, la maladie, c'est quelque chose qui est important dans un couple, qui va marquer le couple à jamais. D'ailleurs, il y a beaucoup de couples qui ont des difficultés, vous en avez peut-être dans votre patientèle, beaucoup de couples même qui divorcent après une grande maladie qui a touché l'un ou l'autre.
Oui, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut pouvoir imaginer l'après-maladie, le pendant et l'après-maladie. Il y a toujours l'idée que la maladie guérie permettra de revenir au temps initial. Or, la vie est un mouvement qui ne cesse d'avancer dans une direction. Et la maladie, eh bien, va permettre, si on se soigne, de vivre d'autres choses, mais pas de revenir en arrière.
On ne sera pas la même personne.
Exactement. Et donc, les couples, parfois, sont dans la difficulté de cette acceptation de passage. Et résultat, il y en a un qui reste sur le bord de la route ou qui ne peut pas se confronter à cette nouvelle acceptation, ces nouveaux repères à trouver, sans les vivre automatiquement comme une dégringolade, mais comme une conquête. Comme on a été capable de se conquérir quand on s'est rencontrés, on peut tenter de se conquérir après la maladie. Mais évidemment, comme il y a deux personnes qui n'agissent pas ou ne cheminent pas à la même vitesse, parfois il est difficile de se rencontrer. Et dans le terme maladie, il y a mal à dire, il y a du mal à dire. Je crois que plus que jamais, il faut nommer les choses, et qui plus est sur le sujet de la sexualité, si on ne veut pas que la sexualité soit engloutie par la noirceur de la maladie qui laisse penser à une dangerosité et une mort imminente.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos précieux conseils. Comme toujours, voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous laisse avec Mathieu Noël et Stéphane Bern pour Historiquement Vôtre. Ils nous racontent l'histoire sans se la raconter. Et moi, je vous dis à demain.
Sans rendez-vous sur Europe 1.